Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Bon, ça va continuer. Alors, je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que si je veux finir à midi moins quart, il faut qu'on commence tout de suite. Aujourd'hui, le thème qui est présenté, c'est la Pentecôte, la venue de l'Esprit-Saint. Et durant l'année, les thèmes qui sont abordés, c'est les dons de l'Esprit-Saint. Les dons de l'Esprit-Saint qui n'ont pas nécessairement commencé avec la Pentecôte, mais qui ont pris une ampleur nouvelle avec la venue de l'Esprit sur les apôtres et Marie le jour de la Pentecôte. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de commencer par un texte de Laurette Lepage. Laurette Lepage, qui est décédée il y a 5 ans, le jour de la Pentecôte, et qui a écrit un texte pas long dans son livre « À l'ombre de tes ailes ». Je vous le propose parce que ça nous permet d'entrer vraiment dans le vif du sujet. C'est un commentaire des Actes des apôtres qui raconte la venue de l'Esprit-Saint. Et ce texte des Actes nous dit ceci, c'est Luc qui écrit, parce que les Actes des apôtres, c'est la suite de l'Évangile de Saint-Luc. Saint-Luc nous dit, « J'avais consacré mon premier livre à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où, après avoir donné dans l'Esprit-Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé. Au cours d'un repas avec eux, il leur commanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. C'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Et c'est ce texte que Laurette commente. Je vais vous le lire, c'est pas long, mais ça permet d'emboîter. Ça s'intitule « Vous allez recevoir une force ». Je regarde l'érable de ma fenêtre. Si dépouillé durant cette saison de froide dormance. Mais voilà que le printemps fait éclater les bourgeons d'une vie nouvelle. Quelles forces peuvent susciter le soleil et la chaleur de la nature? Quand je regarde l'arbre de notre monde en détresse, je pense à tes paroles, Seigneur. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, tu veux des témoins capables de parler de toi qui nous habite, de faire rayonner ton esprit et d'accomplir tes œuvres. Et les preuves de l'authenticité de ton esprit viennent de la vie ordinaire, des attitudes du cœur, de ces miracles quotidiens de partage, de paix, de pardon et de joie. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser conduire par ton esprit qui éclaire tes paroles. Par lui, donne-nous de porter à notre monde d'aujourd'hui les bons fruits dont parle saint Paul, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, l'humilité et la maîtrise de soi. Viens, Esprit de Dieu, viens. Cette parole, ces paroles de Laurette nous livre déjà un texte, une piste qui ouvre nos cœurs. Quand je regarde l'arbre de notre monde, dit-elle, je pense à la parole du Seigneur. Donne-nous, Seigneur, aujourd'hui de nous laisser conduire par toi. C'est l'invitation que le Seigneur nous fait dans le chant dont nous a parlé tout à l'heure, mais, et que nous allons entendre comme une prière en silence. Thank you. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous vivions cette journée dans ta présence et que nous goûtions vraiment la paix que tu donnes à tous ceux et celles qui mettent en toi leur confiance. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le thème, c'est la venue de l'Esprit-Saint à la Pentecôte. Ça m'apparaît bien évident que vous savez tous, vous connaissez tous ce mot-là, Pentecôte. Je vous apprends rien de neuf en disant le mot Pentecôte. Mais c'est peut-être bon de nous rappeler, rafraîchir un peu les idées et pour de regarder d'où ça vient le mot Pentecôte. En fait, le mot Pentecôte, ça nous dit quoi? Ça vient d'où le mot Pentecôte? Dans le dictionnaire, je suis allé voir pour avoir une définition assez exacte. Dans le Petit Robert, on dit « La Pentecôte, c'est le 50e jour après Pâques. Pentecôte, fête chrétienne célébrée le 7e dimanche après Pâques pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. » Voilà ce qu'est la Pentecôte pour nous autres. Mais pour les apôtres, c'était quoi la Pentecôte? Est-ce que c'était la même chose? J'ai pas l'impression. Comme on vient de voir dans la définition du dictionnaire, la Pentecôte, c'est le 7e dimanche après Pâques. Et je suis certain que les apôtres, eux autres, n'ont pas commencé par compter un dimanche après Pâques, deux dimanches après Pâques, puis rendu au 6e, on dit dimanche prochain, si la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre sur nous autres. C'est certainement pas ça pour eux autres, la Pentecôte. Mais c'était quoi juste la Pentecôte pour les apôtres? Le mot Pentecôte est bien différent pour eux et pour nous. Pour nous autres, comme je viens de le dire, ça nous rappelle la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres. Mais pour les Juifs que sont les apôtres, la Pentecôte fait appel à une réalité qui est bien différente. Pour les Juifs du temps de Jésus, et bien longtemps avant aussi. Le mot Pentecôte, c'est le rappel, le souvenir de l'alliance que le Seigneur a faite avec le peuple juif sur le mont Sinaï. Et cette fête de la Pentecôte, c'est un anniversaire qui a été célébré 50 jours après la sortie de l'Égypte. Et par la suite, les Hébreux ont continué chaque année à célébrer le souvenir de cette alliance-là importante, le 50e jour après l'anniversaire de la sortie d'Égypte. Ce qu'il y a de spécial, c'est que cette fête-là, elle rassemblait beaucoup de Juifs venus de partout dans le monde à Jérusalem. Il y avait des foules immenses, des foules nombreuses qui se retrouveraient à Jérusalem chaque année pour célébrer leur Pentecôte. Et c'est ça le théâtre initial que Jésus a choisi avec le Père pour la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres. Revenons donc au récit qu'on retrouve dans les Actes des apôtres, parce que c'est la pièce fondamentale de notre rencontre. Je vous lis le texte qu'on retrouve dans les Actes au chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les apôtres se retrouvèrent réunis tous ensemble. Tout à coup, survint du ciel un bruit comme un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On va reprendre le texte, je dirais phrase par phrase. Quand arriva le jour de la Pentecôte, les apôtres se trouvèrent réunis tous ensemble. Les 12 étaient là, avec Marie. Bien sûr, après la mort de Jésus, après la Passion, ils n'étaient que 11. On connaît la fin tragique de Judas. Mais dès le début des Actes des Apôtres, il nous a raconté ce que Pierre a dit. Pierre a dit, le groupe des 12, c'est Jésus qui l'a formé, 12. Alors, il faut choisir parmi les gens qui nous ont suivis du début de la vie publique de Jésus jusqu'après la Pâque, choisir quelqu'un qui a été là tout le temps comme nous autres. Il y en a présenté deux, un qui s'appelait Joseph, Barsabbas, puis l'autre qui s'appelait Matthias. Alors, ils ont évoqué l'Esprit-Saint, ils ont tiré au sort, puis ça a tombé sur Matthias, qui est devenu l'apôtre, le 12e apôtre qui a remplacé Judas. Alors, Matthias, tous les 12 étaient là. On peut s'imaginer qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble quand ils se trouvaient réunis, probablement au Cénacle, avec Marie. Mais ils ont dû prier ensemble, c'est certain. Puis ils ont dû échanger aussi sur les rencontres qu'ils ont faites durant 40 jours avec Jésus qui leur était apparu, qui leur avait expliqué bien des choses. Ils ont dû se rappeler aussi le souvenir de beaux moments qu'ils avaient vécu avec eux. Quand on avait été aux noces de Cana, je vais se raconter ça. Quand ils avaient guéri telle ou telle personne, un aveugle, la rencontre avec le centurion. En fait, ils se sont racontés toutes sortes de belles choses qu'ils avaient vécues avec Jésus. Comme on fait, nous autres, quand on se retrouve entre amis et qu'on vit des événements spéciaux. Les apôtres réunis ensemble. Tout à coup, survint du ciel un bruit comme un violent coup de vent. Un violent coup de vent, c'est pas juste une phrase que Luc aurait choisi comme ça, plutôt dire un ouragan, ou je ne sais pas trop. Un violent coup de vent, on retrouve la traduction de ce mot-là dès le début de la Genèse, premier livre de la Bible, de la Torah. Et le mot qui traduit en hébreu « violent coup de vent », c'est un mot hébreu dont vous avez peut-être déjà entendu parler, je l'ai entendu un matin. On appelle ça la roua. La roua, c'est le souffle de Dieu, mais un souffle puissant. La roua, c'est le grondement, cette espèce d'ouragan de Dieu qui plane sur les eaux lors de la création du monde. La roua, c'est la puissance, la force de Dieu qui crée. Et les apôtres, eux autres, ils connaissaient très bien la loi, la Torah. C'était de bons juifs, pratiquants. Alors, quand ce violent coup de vent est arrivé, ils ont fait tout de suite le lien, c'est certain, avec quelque chose qui se passait de la part de Dieu. Et ça les a sans doute bouleversés beaucoup. Ce violent coup de vent qui a envahi la maison, qui a fait brasser la maison, ça leur a rappelé que Dieu était présent et qu'il s'en venait quelque chose de spécial. Tout de suite après, leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et ils s'imposaient sur chacun d'eux. Après le souffle violent, les langues de feu. Et les langues de feu, ça évoque une même source de puissance divine. Imaginez un peu les apôtres qui sont ensemble, ils ont prié, ils ont partagé des belles choses qu'ils ont vécues avec Jésus. Ils sont vraiment dans l'esprit de quelque chose qui peut se passer. Et c'est ce moment-là que le Seigneur a choisi pour leur faire don de son esprit. Ces phénomènes-là, ils sont passés, ça s'est fait vite. Ça s'est fait vite, c'est, ça les a pris comme par surprise, c'est certain. Un violent coup de vent qui arrive, la maison qui craque, le vent qui rentre dans la maison, et là, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe, puis arrive après ça du ciel, un feu qui descend, avec qui se sépare en langues, et il s'en pose une sur chacun d'eux. Pierre regarde Jean, puis il y a une langue de feu sur la tête de Jean. Puis Matthieu regarde Paul, Pierre, puis il y a une langue de feu, puis là, il se regarde tout le monde, puis chacun a une langue de feu. Lui-même ne la voit pas, celui qui l'a, mais les autres voient tous la langue de feu, et ils savent que tous ont une langue de feu sur leur tête. Et à partir de là, s'est produit chez les apôtres une transformation qui sort de l'ordinaire. Luc nous dit, ils furent remplis, tous remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. 10 minutes avant, les apôtres étaient à peu près comme vous et moi. Ils avaient rencontré Jésus, ils avaient confiance en lui, ils savaient qui c'était. Mais, je dirais, 10 minutes plus tard, tout est changé. Ils sont littéralement transformés des pieds jusqu'à la tête. Ils se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tout à l'heure, je vous ai dit que la fête de la Pentecôte, pour les Juifs, c'est une fête importante, et que les Juifs venaient d'un peu partout à Jérusalem pour célébrer la fête. C'est ce que Luc nous dit dans la suite du récit. Or, à Jérusalem, résidait un Juif pieux, venu de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se fit, au bruit qui s'est passé, la foule se rassembla et fut en plein désarroi, car chacun les entendait parler dans sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens qui ne parlent que l'araméen? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? » En peu de temps, il s'est passé beaucoup de choses. Le vent dans la maison, les langues de feu sur les apôtres, et voilà qu'ils sortent et ils se mettent à parler leur langue à eux autres, mais les gens les comprenaient dans leur langue à eux, dans leur langue maternelle. Et là, tout le monde est bouleversé, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est un aspect important de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est un lien, c'est en lien avec la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé à la tour de Babel? On nous raconte ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, ceux qui veulent aller voir. Il nous est dit ceci. La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Les hommes alors se dirent l'un à l'autre, « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touchera le ciel, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Des gens qui parlent la même langue, le même mot, et qui disent « c'est important de rester ensemble, on parle le même langage, on se comprend, on bâtit une ville, on bâtit une tour, puis à ce moment-là, on va vivre heureux, tout va être parfait. » Le Seigneur descendit pour voir la ville, et la tour que bâtissaient les fils d'Adam, les hommes. Et le Seigneur se dit, eh bien, voici la première chose qu'ils font ensemble une fois qu'ils sont réunis, rassemblés. Une tour qui va monter jusqu'au ciel. Et alors le Seigneur décida de brouiller leur langage. Et les hommes ne s'entendirent plus, ne se comprirent plus les uns les autres. C'était la confusion totale. Plus personne ne se comprenait. Et de là, le Seigneur dispersa tous les hommes, toute l'humanité, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la tour. Au début, tout le monde parlait le même langage. Après Babel, des groupes parlent un langage, ils se comprennent. D'autres, un autre langage, ils se comprennent entre eux. Mais il n'y a personne qui se comprend, des grands groupes qui se comprennent entre eux autres. C'est la confusion du langage. Si on revient à la Pentecôte et au texte qui nous est dit, on peut faire facilement le lien entre la Pentecôte et Babel, la tour de Babel. Le don de l'Esprit qui est fait aux apôtres le jour de la Pentecôte et qui les amène à être compris de toutes les nations comme s'ils leur parlaient dans leur langue maternelle, ce jour de la Pentecôte refait l'unité qui avait été défaite lors de la construction de la tour de Babel, comme c'est raconté dans la Genèse. Et à partir de ce moment-là, c'est un signe que l'humanité vient d'entrer dans une ère nouvelle. Il y a quelque chose de neuf qui se passe à la Pentecôte pour l'humanité tout entière. À partir de la Pentecôte, il y a quelque chose de neuf dans les relations entre les peuples. Et l'Esprit Saint instaure, invente un langage nouveau pour un monde nouveau. C'est comme l'annonce de ce qui va arriver à la fin des temps, tel que le dit l'Apocalypse au chapitre 21. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Voici que je fais toute chose nouvelle. Ce langage nouveau qui arrive à la Pentecôte, nous le connaissons, nous le savons, et nous le parlons et nous pouvons le parler. C'est quoi le langage nouveau qui a été instauré à la Pentecôte? C'est ce que Jésus a dit un jour à un scribe qui lui posait la question. C'est quoi le premier commandement? C'est quoi les commandements? Et Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second, qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le langage qui est instauré à la Pentecôte, langage universel nouveau, si on peut dire, c'est le langage de l'amour. Les langues que parlaient les gens au tout début, c'était des langues qu'ils comprenaient avec leur tête. La langue dont parlent les apôtres après la Pentecôte, c'est la langue du cœur. Et c'est cette langue nouvelle qui peut rejoindre tout le monde. Peu importe la langue qui est parlée à partir de la raison, quand quelqu'un s'adresse à nous avec la langue du cœur, nous le comprenons. Et quand nous nous adressons à quelqu'un avec la langue du cœur, il nous comprend. Quand Jésus a expliqué ça aux apôtres, il a pris un exemple que vous connaissez bien, il a raconté une parabole, celle du Samaritain qui a aidé un Juif qui avait été maltraité et jeté sur le bord du chemin. Les prêtres, les Lévites qui sont passés à côté ne sont pas arrêtés parce qu'ils étaient branchés sur la langue de la raison du cœur. Et pour eux, la langue de la raison, c'était ceci: un Juif et un Samaritain, ça ne se parle pas, ça ne s'entraide pas, il y a un mur entre les deux. Ce qui nous est raconté d'une façon encore spéciale lors de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine sur le bord du puits, vous vous souvenez de ça. Qui a parlé le langage du cœur? Vous connaissez la réponse? C'est le Samaritain. Et même si le Samaritain et le Juif étaient dans le fossé, au point de vue de la loi religieuse, c'était deux ennemis, le langage du cœur a amené le Samaritain à rejoindre le Juif comme son frère. Et c'est ainsi que, grâce à ce nouveau langage du cœur, l'unité s'est faite entre les deux. Et le jour de la Pentecôte, c'est ce que le Seigneur notre Dieu réalise. L'unité qui avait été défaite lors de la tour de Babel, elle est refaite avec une nouvelle alliance lors de la Pentecôte. Le Seigneur instaure un langage nouveau, celui de l'amour. Et cette façon qu'ont les apôtres de parler un langage nouveau, ça préfigure, ça annonce la dimension universelle de la mission des apôtres, comme Jésus le leur avait dit à l'Ascension, avant de les quitter. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et les apôtres, plus tard, ont quitté Jérusalem pour aller de par le monde entier annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et la bonne nouvelle de Jésus, c'est pas un langage humain, c'est le langage de l'amour. C'est ça que saint Paul dit dans le chapitre 13, je pense, de Corinthiens. J'aurais beau avoir la foi jusqu'à transporter des montagnes et la dire ma foi. J'aurais beau avoir la science qui connaît tout. J'aurais beau parler les langues de toute la terre. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. C'est la façon dont Paul exprimait ce qui s'est passé à sa Pentecôte à lui, quand il a reçu l'Esprit-Saint sur le chemin de Damas. Paul a compris à ce moment-là que le langage qu'il parlait auparavant, comme pharisien, fils de pharisien, ce langage qu'il parlait auparavant, quand il a rencontré Jésus et qu'il a été reçu le don de l'Esprit, ce langage nouveau, il l'a intégré, il l'a fait sien. Et c'est dans ce sens-là que Paul pouvait s'adresser aux gens, aux communautés de son temps. J'aurais beau parler toutes les langues du monde, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Paul se rendait compte, savait, après sa conversion, que le seul langage que toute l'humanité pouvait comprendre, c'est le langage de l'amour, parce que le langage de l'amour refait l'unité. La fête de la Pentecôte, c'est vraiment une fête importante. Et bien souvent, moi en tout cas je l'ai réalisé en préparant cette rencontre, bien souvent c'est comme si on n'en saisissait pas toute la profondeur. Pâques, oui, on comprend. Noël, la fête de Noël, oui. La Pentecôte, oui, mais... j'oserais dire, entre guillemets, c'est un peu comme un accessoire. C'est un peu. Mais c'est important, la fête de la Pentecôte. Est-ce qu'il y a de fond? Je continue quand même, si je n'ai pas enregistré, parce que je ne sais pas comment ça marche. Non, mais Jean-Claude, ça vient. Ça, par exemple, c'est du temps que je reprends, là. Me dira mes sages. Alors, c'est de cette façon-là, à partir de la Pentecôte, que les apôtres ont réalisé le sens de la mission que Jésus leur avait donnée. Et ils ont tous été transformés complètement. On va regarder Saint-Pierre un peu plus spécialement, parce que ce qu'on remarque chez Saint-Pierre, c'est la même chose un peu qui arrive sur les apôtres, sauf que Pierre a un rôle spécial. Et Pierre, après la venue de l'Esprit-Saint, il est transformé lui aussi du tout au tout. Dès que les apôtres sortent, Pierre, tout de suite, élève la voix et prend la parole. Quand Pierre prend la parole, il se présente comme le chef des douze, comme Jésus le lui avait dit à la dernière scène. Mais on voit la transformation qui s'est opérée chez Pierre quand on se reporte à ce qui s'est passé avant la passion, la résurrection. Jésus, à la dernière scène, dit à Pierre qu'il l'a choisi. Il le lui avait dit auparavant, mais là, il lui redit, dans ce moment vraiment spécial qui est le dernier repas, il lui redit qu'il sera le chef des apôtres. Simon, Simon, dit Jésus, Satan vous a réclamé pour vous secouer dans un crible comme on fait pour le blé. Mais moi, dit Jésus, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, Pierre, quand tu seras revenu, c'est-à-dire, nous le savons, nous, lui, il ne savait pas à ce moment-là, toi, quand tu seras revenu, c'est-à-dire quand tu auras traversé l'épreuve du reniement, ce que je viens de vous dire, Pierre ne pouvait pas savoir au moment où Jésus lui parle ainsi, quand tu seras revenu, affermis tes frères dans la foi. C'est la mission que Jésus a confiée à Pierre. Et on le voit, l'Esprit-Saint a transformé Pierre du tout au tout. Pierre prend la parole avec Léon comme un chef, comme un leader. Et il n'y a pas personne parmi les apôtres qui dit « Moi aussi je parle la langue, puis tout le monde comprend quand je parle. » Non, personne n'a dit ça. Pierre est présenté, est accepté comme le chef des apôtres. La voix de Pierre s'éleva donc et il prononce un premier discours qui va être comme le fondement de la bonne nouvelle qui va être proclamée de par le monde. Il parle à des Juifs qui connaissent la Torah, qui connaissent l'Alliance, que nous appelons, nous, Ancienne Alliance, aujourd'hui. Et il fait comme l'histoire de tout ce qui s'est passé depuis les débuts, Abraham, Moïse, les prophètes, les juges, jusqu'à ce Jésus, dit-il à la fin, ce Jésus de Nazareth qui est le Messie, le Fils de Dieu, et que vous aviez crucifié. Pierre établit, dès le point de départ, ce qui est le fondement de l'annonce de l'Évangile. Et c'est ça que les Juifs, venus de partout dans le monde, entendre dans leur langue maternelle. Ce langage rétablit l'unité qui avait été défaite à la tour de Babel. Ce qui est important, ce qui est bon de voir, c'est la transformation que l'Esprit-Saint a opérée chez les apôtres. Et avec vous autres, je vais refaire juste la démarche, le chemin que les apôtres ont fait à partir de leur première rencontre avec Jésus jusqu'à Pâques et à la Pentecôte. Je vais prendre juste quelques exemples qui sont bien évidents et ça a été la même chose pour tous les apôtres. Les apôtres, c'est du monde comme nous autres. Et du monde qui ont leurs faiblesses comme nous autres. Chacun de nous autres, on a nos faiblesses qui nous appartiennent. Pour les uns, c'est ceci, pour d'autres, c'est cela, pour d'autres, c'est autre chose. Je ne les nomme pas parce que je ne veux pas vous dire les miennes. De suite, vous les savez. Pour les apôtres, c'est la même chose. Et imaginez-vous que Il y avait quelque chose qu'ils trouvaient bien important, les apôtres, au fur et à mesure qu'ils parlaient, qu'ils cheminaient avec Jésus. C'était de savoir c'est qui est le premier. C'est qui est le meilleur parmi eux autres. Et là, ils se querellaient entre eux autres pour savoir ça. Ils s'ostinaient entre eux autres. Pas juste une petite ostination, là, mais ils se querellaient. C'est le même que c'est dit dans les Évangiles. Ils se querellaient entre eux, entre autres quand ils marchaient sur le chemin qui menait à Capernaum un de ces jours. Mais ça veut dire que ce n'était pas juste la première fois. Ils se querellaient pour savoir. Moi, je dis que quand on regarde comme il faut, c'est moi qui ai le premier. C'est moi qui suis plus proche de Jésus. Ben non. Hey, toi là. Regarde-moi. Tu n'as pas remarqué quand il a fait tel miracle qu'il m'a regardé d'une façon spéciale. Wow, c'est moi. Vous voyez un peu une vraie querelle. C'est une vraie querelle. Et Jésus, plus spécialement, un jour où il marchait sur Capernaum, c'est un peu comme si Jésus, là, s'était dit, ouais, ça va faire, là, ces querelles-là, ces ostinations-là, j'en ai assez. Et il leur demande, voulez-vous me dire de quoi vous parliez sur le chemin quand on s'entend, quand on est en route? Et là, ils sont un peu gênés, ils s'aperçoivent que Jésus a compris, il n'y a pas personne qui parle. Et Jésus leur dit simplement, les premiers dans le royaume des cieux, c'est pas du monde comme vous autres qui se battent pour être les premiers. Les premiers dans le royaume des cieux, c'est ceux qui ressemblent à un petit enfant, qui ont un cœur de petit enfant. Et pour être sûr qu'ils comprennent bien, prend un petit enfant, puis il le place au milieu d'eux. Au milieu d'eux, ça veut dire qu'il était disposé en cercle. Quand on est en cercle, il n'y en a pas un qui peut dire, bien, moi, je suis à une meilleure place que toi, puis toi, tu n'es pas à meilleure place que moi. Quand on est en cercle, on est tous égaux. Et quand Jésus place un petit enfant au milieu d'eux en leur disant, celui qui va être le premier, qu'il soit semblable, qu'il se comporte comme ce petit enfant. Qu'il soit le dernier, le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Dans cet épisode-là, on voit que c'est les apôtres qui se querellent entre eux autres. On ne sait pas les noms. Alors, ça peut être Matthieu, ça ne me surprendrait pas, moi, que ça serait... Non, je ne dis pas ça, que ça serait Judas. En tout cas, peu importe. C'est une mauvaise marque. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que Jacques et Jean, imaginez-vous, là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, Jean qui a écrit l'Évangile et l'Apocalypse, eux autres aussi, ils sont dans le même bateau. Et un jour, eux autres, ils ne prennent pas de chance, ils n'en parlent pas avec les autres. Ils se présentent à Jésus lui-même, puis ils disent, « Jésus, on aurait quelque chose à te demander, nous autres, les deux frères. » Jésus dit, « Ben, dites-les, vous pouvez me poser une question. » Et là, ils lui dirent, accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu viendras dans le royaume. Wow! Ça ressemble un peu, c'est spécial. C'est vraiment spécial de voir la préoccupation qu'avaient les apôtres, de savoir qui serait le premier, qui serait placé plus proche de Jésus quand le royaume va arriver. Et là, eux autres ne donnent pas de chance, un à droite, l'autre à gauche, c'est une faveur, on te demande. Jésus leur dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume qui se conquiert à force de faveur, d'argent, de puissance. Le royaume de Dieu, il appartient à ceux et celles qui sont au service de leurs frères et sœurs. Et probablement Jésus a dû leur dire, au lieu de vouloir être en avant, ce qu'il avait dit à Pierre, quand Pierre a dit « ça ne se passera pas de même », au lieu de vouloir être en avant de tout le monde, passez derrière moi, c'est-à-dire restez à votre place, disciples, soyez les disciples et non pas des gens qui veulent prendre toute la place. Après la Pentecôte, on se rend compte là, qu'il y a vraiment une transformation. Il n'y a plus rien de ça dont il est question. Les apôtres, on le voit au début des actes, quand c'est raconté la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Ils étaient tous ensemble avec Marie. Et quand ils étaient ensemble, c'est là que le Seigneur est intervenu auprès d'eux pour les transformer du tout au tout. Jean-Claude, combien de minutes encore? Parce que là, je vais sauter des pages. Cinq? Je ne vois pas. Bon. Alors, c'est ça. Fait que là, ces valeurs, c'était tellement beau, tellement beau. Bon. Ah non, mais là, je ne veux pas exagérer pour vous autres. Bon, en tout cas, juste brièvement, là, moi, la transformation, je la vois chez Pierre. J'ai un faible pour Pierre. Pierre, il m'a vraiment rejoint dans ma vie. Un jour, j'ai fait la retraite des 30 jours, et c'est ma rencontre avec Jésus et Pierre qui m'a amené à comprendre bien les choses. Et je remercie encore le Seigneur d'avoir connu Pierre. Parce que Pierre, c'est vraiment quelqu'un de spécial. Et c'est pas pour rien que Jésus l'a choisi pour être le chef des apôtres. Il avait du tempérament. Il voulait prendre soin des autres. Il se préoccupait beaucoup des autres. Puis il était capable de foncer. C'est ce qu'on voit dans les évangiles. Quand Jésus dit aux apôtres, on s'en va à Jérusalem, mais le Fils de l'homme, moi, là, je vais être massacré. Les gens vont me rejeter et les gens de la religion vont me rejeter. Je vais mourir. 3 jours après, je vais ressusciter. Ça, ils n'ont pas compris. Pierre, qui prend soin du minute, là, wow, ça ne se passera pas de même. Je vais m'en occuper, je vais m'organiser de tout ça. Il prend soin de Jésus, Pierre. Il est toujours là pour protéger Jésus. Il est protecteur. Prends soin de Jésus. C'est donc quelqu'un qui prend soin du monde, Pierre, qui se préoccupe du monde. Mais Jésus lui dit, garde, Pierre, là, ça ne marche pas ton langage, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, puis c'est pas ça du tout qui va se passer. Passe derrière moi, Satan. Ça ne veut pas dire que Pierre était possédé du démon, mais le mot Satan, si on le traduit textuellement, littéralement en français, Satan, c'est l'adversaire. Alors, Pierre, à ce moment-là, se place, se positionne comme l'adversaire du plan de Dieu. Et Jésus lui dit, c'est bien beau prendre soin de moi, là, mais tu comprends rien à l'affaire, tu n'as rien compris. Reste un disciple pour un bout de temps. Quand ça sera le temps de devenir le chef, je te le dirai. Jésus n'a pas dû y parler de même, mais il a dû y faire comprendre ça, c'est certain. Peut-être qu'il a parlé de même. Bon. Alors, Pierre, ben, tu s'en vas en arrière. Disciple. Je vais regarder un autre événement à la dernière scène. À la dernière scène, Jésus, attendez un peu, au lavement des pieds. Ah, ça, c'est bon, le lavement des pieds. On connaît tout ça, je n'ai pas besoin de vous le raconter. Au lavement des pieds, quand Jésus commence à laver les pieds des disciples et qu'il arrive à Pierre, vous connaissez ce qui s'est passé. Pierre dit, me laver les pieds, jamais. Puis Jésus dit, ce que je fais maintenant, tu ne comprends pas tout de suite. Tu vas comprendre plus tard. Non, tu ne laveras pas les pieds par 2 fois qu'il me dit. Jésus dit, ben là, Jésus prend les grands moyens avec Pierre. Il n'y a pas d'autre chose que de le brasser sérieusement. Si je ne te lave pas les pieds, c'est fini notre amitié. Tu n'auras plus de part avec moi. C'est fini notre amitié. Ça arrête là. Et là, Pierre, il tient à Jésus. Pierre, il aime Jésus. Il veut entendre ça. Pierre dit, non, dans ce cas-là, là, c'est correct. Non seulement les pieds, mais les mains, la tête, tu me laves au complet. Parce que Pierre tient, malgré n'importe quoi, à l'amitié de Jésus. Et à la dernière scène, Jésus, on est, leur dit, vous allez tous tomber à cause de moi. Jésus est triste. Puis eux autres aussi sont tristes. Et Jésus leur dit, vous allez tous tomber à cause de moi. Les apôtres, ils sont estomaqués. Mais Pierre lui dit, même si tous tombent à cause de moi, de toi, moi, je ne tomberai pas. Jamais. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le déclare, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Pierre lui dit, « Non, 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 même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et Pierre va plus loin encore, « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller même en prison, même à la mort. Je ne te renierai jamais. » Vous voyez, Pierre, là, il est sûr de lui. Il veut être avec Jésus jusqu'au bout. Même si les autres tombent de l'âge, « Moi, tu peux compter sur moi, » dit Pierre. « Moi, je te lâcherai pas, je vais être là. » Et Jésus lui dit, « Pierre, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié par trois fois. » Pierre comprend rien, ne comprend pas. Et les apôtres non plus. Jésus leur dit, « Je vais être traité comme un criminel. Tout ce qui me concerne dans les Écritures va être accompli. » Les apôtres, les disciples, qu'est-ce qu'ils lui disent? « Seigneur, voici deux épées. On va se battre. » Jésus les bras tendus. Voyant que les apôtres ne comprennent pas, Jésus leur répond, « C'est assez, ça suffit, on s'en va au jardin des Oliviers. » Ce que Jésus a dit à Pierre, ça s'est réalisé. Pierre le renié par trois fois. On voit donc, après la Pentecôte, tout ce qui s'est réalisé, tout ce qui s'est passé. Il y a une transformation qui s'est opérée. Et juste brièvement, la transformation, je dirais vraiment qu'il nous rejoint nous autres, parce que c'est du monde de notre gang plus, si on veut dire qu'on n'est peut-être pas de la gang des apôtres, des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, ce n'est pas des apôtres, c'est des disciples de Jésus. Et eux autres, quand ils ont rencontré Jésus sur le chemin qui les amenait chez eux, Jésus a commencé à leur parler, leur expliquer les Écritures, et ils se disaient, il se passait quelque chose en dedans de nous autres, quand il nous ouvrait les Écritures, il y avait comme une chaleur bienfaisante. Et au moment du partage du pain, vous vous en rappelez, à la fraction du pain, il le reconnut. Et à ce moment-là, s'opère chez eux une transformation radicale également. Quand ils retournaient chez eux, ils disent à l'inconnu, à l'étranger, « Commence à faire noir, c'est le soir tombe. » « Va pas plus loin, reste avec nous autres, puis on passe la nuit ici. » Eux autres même ne voulaient pas aller plus loin, il faisait noir. Et après la rencontre avec Jésus, il faisait noir encore, c'était la nuit, il rebrouche chemin, 2 heures de route pour se rendre à Jérusalem, complètement transformé. Et quand il arrive pour parler aux apôtres, ils n'ont pas le temps de le dire qu'ils ont rencontré Jésus, les apôtres eux-mêmes leur disent, « Le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Pierre, nous l'avons vu. » Et nous autres aussi, on l'a vu. C'est une rencontre qui a dû se faire dans la joie énorme. Et j'arrive à la conclusion. 3 minutes. Le thème, on peut se demander, pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi la Pentecôte? Qu'est-ce qui nous en reste? Qu'est-ce qui nous rejoint? Et c'est là qu'on voit le lien avec les dons du Saint-Esprit. Le Seigneur, à nous aujourd'hui, à partir de la Pentecôte, nous donne un cadeau, les dons de son Esprit, les dons de l'Esprit Saint. Et les dons, ça nous est fait pour qu'on s'en serve. Les dons du Saint-Esprit, j'ai eu à expliquer ça à un jeune que j'ai accompagné pour sa première communion, puis pour la confirmation. Il m'a dit, c'est quoi les dons du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu dis à un gars de 22 ans? Les dons du Saint-Esprit. Saint-Esprit, il m'éclaire dans ce temps-là, parce que les dons, il faut s'en servir. Et je lui dis, les dons du Saint-Esprit, c'est comme la carte CA. Tu sais, c'est quoi la carte CA? La carte CA, moi je l'ai depuis 20 ans. Si on est mal pris avec notre auto, la carte CA, ça nous dépend. Depuis 20 ans, je l'ai, peut-être utilisé 4-5 fois. Mais quand on l'a, quand on a besoin, elle est là. Si on n'a pas besoin, elle est pareil. Les dons du Saint-Esprit, ça ressemble un peu à ça. Ils sont là. Mais quand on a besoin, il faut les demander, il faut les sortir. J'ai besoin de comprendre un texte de la parole de Dieu, l'approfondir. Seigneur, j'ai le don d'intelligence, puis là, j'en ai besoin. Je sors ma carte, don d'intelligence. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour comprendre ce texte. Et quelqu'un, il vient me voir, puis il dit, je ne sais pas trop ce que c'est que j'ai à faire. J'ai une décision à prendre, puis je ne suis pas sûr de ce que je devrais faire. Je sors la carte don du conseil, et j'agis non pas comme un psychothérapeute, un psychologue, je n'en suis pas. Mais le don du conseil m'éclaire pour donner une bonne parole, une bonne réflexion à la personne qui vient me voir. Et des fois, je me déprécie. Oh, je ne suis pas bon. Les autres sont meilleurs que moi. Je sors la carte, piété filiale. Piété filiale, c'est quoi? C'est me reconnaître, me rappeler que je suis appelé enfant de Dieu. Et Saint-Jean nous dit, non seulement appelé enfant de Dieu, mais vous l'êtes réellement. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un enfant de Dieu. Un fils, une fille, du Père bien-aimé, et je fais partie de la famille des enfants de Dieu. Il faut arrêter de se déprécier. Le don, car piété filiale. Et ainsi en est-il avec les autres, c'est ce que nous allons voir tout au long de l'année. Je termine avec un texte tiré des Éphésiens qui résume en quelque sorte tout ce qu'on a vu aujourd'hui. De quelle façon ça le résume? Comme on l'a vu au début, à partir de la tour de Babel, les peuples ont été dispersés à la grandeur de l'univers. Il n'y avait plus d'unité entre eux autres. Ils ne faisaient plus partie de la même famille, si on veut, unis, unifiés par le langage. Et saint Paul, à ses sœurs et frères de la communauté d'Éphèse, dit ceci, qui s'adresse à nous aujourd'hui. Vous n'êtes plus des étrangers les uns par rapport aux autres. Vous n'êtes plus des gens de passage comme des touristes. Ça, il y a des bouts que je rajoute. Vous êtes concitoyens des saints. Vous faites partie de la même cité, la cité de la Jérusalem céleste. Vous êtes membres de la famille de Dieu. C'est pas n'importe quoi. Parce que vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Vous faites partie de la maison de Dieu. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Il n'y a plus de temple de Jérusalem. Les temples de pierre n'existent plus. Avec la loi nouvelle, le langage nouveau de la Pentecôte, nous sommes appelés à devenir nous-mêmes temple saint dans le Seigneur. Et en lui, le Seigneur, vous êtes, vous aussi, des éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Parce que, après la Pentecôte et depuis la Pentecôte, nous parlons, nous les disciples de Jésus, le même langage, celui de l'amour. C'est le don par excellence que le Seigneur nous fait. Et il nous invite, tout au long de l'année, à ouvrir nos cœurs à ce don merveilleux qu'il nous fait, l'Esprit Saint qui habite en nous, la demeure de Dieu en chacun et chacune d'entre nous. Telle est ma foi, telle est votre foi, j'en suis sûr, que nous vivons dans l'espérance d'un monde meilleur, où le Seigneur nous fera habiter dans un monde nouveau, une terre nouvelle, et avoir la joie d'un ciel nouveau.